La Bible est un livre sans égal. La Bible est un livre d'instruction. La Bible fournit, en outre, un aperçu du futur et propose de nous aider à nous y préparer. Donc, la Bible a fort à faire avec tout ce qui se passe dans le monde actuel et dans notre vie. Par la Bible et l'inspiration de Dieu, nous sommes comme Noé dans un sens. Nous sommes avertis que le monde autour de nous sera complètement inondé, non pas par l'eau cette fois-ci, mais par la séduction religieuse, la guerre avec les ruines, avec la famine et avec les épidémies. On pourrait dire « pauvre Noé ». Tout autour de lui, voyez une planète corrompue, une société pleine de violence et d'iniquité. Mais qu'est-ce qui a fait que Noé soit capable de vivre dans un tel monde? Qu'est-ce qui fait que nous soyons capables de vivre dans le monde actuel? Nous sommes quand même entourés déjà de ces problèmes, de ces difficultés, de ces épreuves, de la vérité du monde qui est, en fait, que le monde devient de pire en pire. Ça, c'est vraiment la vérité du monde. Le monde essaye de nous présenter avec des mensonges que tout va bien, mais en réalité, le monde ne connaît pas la voie divine aujourd'hui. Et si les hommes sont laissés tout seuls, ce n'est que la ruine qui va en résulter. Donc, pourquoi Dieu permettrait-il que telle chose arrive? Je crois que depuis peu, nous avons tous eu l'occasion de considérer le fait que le monde autour de nous ne durera pas à jamais. Au niveau plus personnel, nous avons aussi la possibilité de considérer la fin, non pas seulement de ce monde, mais la fin de notre propre vie individuelle aussi. Quand nous avons une pandémie dans le monde entier, ça fait penser un peu à la nature temporaire de la vie, au fait que nous ne sommes pas là pour toujours. Et quand nous regardons les statistiques ou quand nous connaissons des cas où les gens meurent de cette pandémie, ça nous fait penser, bien sûr, à notre propre vie. Et j'espère que nous sommes encouragés avec le précieux de la vie ici, cette occasion que nous avons reçue de vivre par la voie divine. Sur cette petite échelle, nous avons la possibilité d'imaginer ce que nous ferions si nous devrions faire face à ces événements de fin de vie. Peut-être ça nous revient à l'esprit de temps en temps. Après avoir lu pas mal d'articles, c'est quand même partout dans les infos, dans les médias, les reportages sur le virus, sur les impacts du virus et tout ça. Et ce n'est pas mon intention de nous décourager aujourd'hui, le jour du sabbat, le jour de réjouissance, mais il faut quand même présenter les faits comme ils sont parce que nous vivons dans un monde qui aujourd'hui est troublé par ce problème de pandémie. D'après la Bible, Noé a eu presque 100 ans, à considérer la fin du monde autour de lui. Cette période correspond à peu près à notre période moyenne de vie, voire un petit peu plus long. Mais l'Éternel Dieu a révélé à Noé que le déluge allait avoir lieu. Chose que le reste du monde ne savait pas. Il n'a pas informé, n'a pas averti tout le monde entier. L'Éternel a averti Noé. Un peu comme nous, nous sommes avertis. Nous sommes avertis que les hommes deviendront de pire en pire, que ça peut nous attirer aussi à la ruine, que c'est un monde plein de mensonges, que le mensonge du monde n'est pas vrai, mais c'est quelque chose qui mène à la mort. Et voilà, nous sommes aussi avertis. Donc, quelle est notre ancre face à face de ces choses? Nous sommes avertis, Jésus-Christ et les apôtres ont décrit le temps de la fin dans la Bible. Jésus a exhorté ses disciples à toujours rester vigilants. Et nous avons ce livre qui est pour nous un ancre face à face à tout cet tremblement de terre, tous ces troubles du monde actuel. Mais l'instruction biblique ne s'arrête pas là. Comme je vous ai dit, la Bible est un livre sans égal. La Bible est un livre d'instruction. La Bible fournit un aperçu du futur et propose de nous aider à nous y préparer. Nous ne sommes pas simplement avertis. Nous sommes aussi instruits. Nous avons des clés pour vivre dans ce monde qui nous entoure. Nous avons reçu, par l'inspiration de Dieu, ces clés, ces leçons, ces faits, ces promesses, et tout est inclus dans la Bible. Si nous sommes avertis du mal, nous sommes également prévenus du bien qui suivra, parce qu'il nous a promis quand même le retour de Jésus-Christ comme roi des rois. Il nous a promis la paix que Jésus va installer sur la terre lors de la venue de son royaume ici-bas sur la terre. Nous avons des passages bibliques, des prophéties qui nous expliquent le monde de demain, le monde qui arrivera après la fin de toutes ces souffrances. Même Romains chapitre 8, Paul décrit ces douleurs d'enfantement qui sont actuellement sur nous, sur le monde entier, avant le retour de Jésus-Christ et la délivrance de ces malheurs. Et c'est bien cette perspective-là, le fait de faire quelque chose avec ce que nous avons connu, avec ce que nous avons compris, de faire quelque chose c'est cette perspective-là qui va nous aider à vivre, pas seulement à survivre, mais à vivre en abondance dans un monde qui est en train de tomber en ruine. Prenons l'exemple de Noé un peu plus près. Genèse chapitre 5. Regardons cet exemple de comment Dieu a parlé avec Noé, comment il a averti Noé, et ce que Dieu a demandé de Noé. S'il a demandé quelque chose de Noé, il nous a demandé quelque chose également. Reportons-nous à Genèse, chapitre 5. Souvent, on pose la question: comment Noé a-t-il construit l'arche? Même aux États-Unis, dans quelques États, ce n'est pas juste un endroit, mais dans quelques États des États-Unis, nous avons des modèles de l'arche de Noé, même des modèles à grande échelle qui nous permettent d'y entrer, de regarder comment ça aurait été d'être dans l'arche de Noé. Il y a beaucoup d'informations associées avec la fabrication, avec les matériaux, avec les méthodes de fabrication de l'époque, des choses comme ça, pour reconstruire le comment. Mais une question qui est peut-être beaucoup plus utile pour nous aujourd'hui, c'est simplement: pourquoi Noé a-t-il construit l'arche? Pour répondre à cette question, d'abord, relisons une partie de cette histoire et de la vie de Noé. Commençons avec verset 28, Genèse chapitre 5 et le verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Passons maintenant au chapitre 6 de Genèse. Voici au début du chapitre 6 un résumé, comme déjà indiqué, de l'iniquité qui était partout sur la terre. Puis, nous avons les versets 1 à 4 ici, qui décrit comment les choses étaient à cette époque. Puis, nous avons l'exemple de Noé. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vraiment, il n'y avait pas de bien dans le monde, il n'y avait pas de bonnes choses, il y avait juste tout ce qui était malin dans le monde entier. Et on peut voir ici le fait que l'iniquité, c'est un peu comme une pandémie, ça peut contaminer, ça peut couvrir le monde avec ses symptômes, ça se propage facilement. Puis au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc Dieu est touché de cœur par l'état du monde, par l'état de sa création. Il est affligé en son cœur. Nous, les hommes, ne sommes pas comme les fourmis aux yeux de l'Éternel, de l'Éternel, quelque chose à exterminer. Il aime sa création. Donc il était quand même touché au cœur. Ça l'a touché parce que c'était pas comme ça qu'il voulait pour, même s'il a donné à l'homme le choix libre, l'arbitre, le libre arbitre, il ne voulait pas ses choix. Il ne voulait pas voir sa création dans cet état de ruine. Et puis, il dit, je me repens de les avoir faits. Et puis, verset 8, un vrai contraste du verset 7, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et puis, verset 9, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. » Tout autour de cet homme juste et intègre, il y a eu cette méchanceté dans le monde entier. Puis l'Éternel révèle à Noé une bonne nouvelle. C'est lui qui serait tâché de préparer une sortie de secours pour lui, pour sa famille et pour les animaux de la terre. Sautons quelques versets pour le verset 14 maintenant. Verset 14, Genèse, toujours Genèse chapitre 6. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids et en dedans et en dehors. Donc, encore une fois, nous pouvons quand même étudier un peu ce passage pour comprendre comment l'arche a été préparée pour résister à l'eau, pour résister, pour pouvoir accueillir, recevoir ce qui a été destiné à entrer dans l'arche. Puis, nous avons une sorte de commandement ici. Fais-toi une arche. C'est quelque chose qui a été demandé de faire de Noé. C'est ce qu'il a fallu faire. Et il a reçu aussi, pas seulement le commandement de faire l'arche, mais il a reçu les instructions aussi. Considérant comment Noé aurait réagi si l'Éternel Dieu l'avait simplement informé que le déluge aurait lieu. S'il était informé, voilà, le déluge aura lieu parce que je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre. Enfin, bon courage, Noé, et au revoir. Est-ce que ça aurait été très facile pour Noé? Non, je crois pas. Ça n'aura pas eu les mêmes résultats. Ou peut-être une autre possibilité. Si l'Éternel avait préparé l'arche sans le travail de Noé, puis, juste avant l'arrivée du grand déluge, pouf, l'arche apparaît toute prête. Si l'Éternel avait préparé l'arche en avance, n'aurait pu entrer avec sa famille tout tranquillement. Et ça aurait été différent aussi. Mais Dieu a demandé à Noé de faire une arche. Si Noé n'avait pas reçu le commandement de construire l'arche, est-ce qu'il aurait pu faire autre chose pour se sauver? Je crois que l'arche, c'était la seule sortie de secours. C'est pour ça que Dieu a profité de cet homme juste. Il a mis sa confiance en lui pour bâtir l'arche. Donc nous avons déjà lu des aspects de la caractère de Noé. C'était un homme juste. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il marchait avec l'Éternel. Pourquoi Noé et non pas quelqu'un d'autre? D'après ce que nous avons lu, Noé est un homme dans lequel on pouvait faire confiance. Peut-être l'Éternel estimait qu'il avait confiance en Noé. Et puis, pourquoi une arche? Pourquoi pas juste un miracle sans l'arche? Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge en marchant à pied sur la terre sec quand l'eau a été enlevée. Ils avaient de l'eau sur les deux côtés, un vrai miracle de l'Éternel. Dieu aurait pu préserver Noé aussi, comme ça. Il aurait pu préparer un endroit pour Noé et sa famille et les animaux. Donc, encore une fois, c'était quand même important que Noé avait cette tâche devant lui de bâtir l'arche, de faire l'arche et de suivre les instructions de Dieu. Il y a quand même des aspects miraculeux dans l'histoire de Noé et de l'arche, mais cela ne change pas le fait que Noé ait reçu un commandement pour construire et aussi il a reçu les instructions de comment de construire. C'était un projet important avec des enjeux importants. C'était vraiment le futur du monde entier. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à marcher avec lui. Le repentir, c'est tourner du chemin qui mène à la mort pour marcher avec Dieu dans ses voies qui mènent à la vie. Lorsque nous marchons avec lui, il nous révèle la vérité, la sagesse, ses commandements, ses préceptes, les prophéties, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et toute autre chose aussi. Dieu nous appelle aussi, comme Noé, à faire quelque chose avec ses matériaux spirituels, si vous voulez. Nous construisons quelque chose aujourd'hui qui demande de l'effort, qui me demande du temps et qui demande de la motivation. Nous construisions, bien sûr, des familles qui vont suivre la voie de l'Éternel. Et à travers de nous, nous allons construire aussi une église spirituelle. Nous participons dans l'église qui est en train d'être construite et préparée, comme nous avons déjà considéré avec la préparation de l'épouse. Et donc, nous avons, jusqu'au retour de Jésus-Christ, pardon, pour la préparation. Donc, nous construisons quelque chose qui sera capable de rester intègre pendant les pires des temps. Même pendant la tribulation, nous sommes en train de construire aujourd'hui pour quand ça sera encore pire. Si Noé avait cessé de travailler, il n'aurait pas pu mettre de poids sur le toit de l'arche. Son bâtiment n'aurait pas été étanche. S'il avait loupé une étape, s'il avait négligé des instructions de Dieu, il n'aurait pas pu terminer la tâche. Et nous souvenons tous que l'apôtre Paul a rappelé aux Philippiens dans Philippiens 1 et le verset 6 du fait que quand Dieu commence une œuvre, il va le terminer. Je suis Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Dieu va terminer ou rendre parfaite l'œuvre que nous faisons avec le temps et les matériaux qu'il nous donne, si nous suivons ses instructions. Dieu nous demande d'aller plus loin que un petit effort. Il nous demande de continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection. Et puis, il va compléter l'œuvre qu'il a commencée en nous. Ce n'est pas pour nous dire, j'arrête, ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire et je n'ai plus besoin de construire. Je n'ai plus besoin de rester fidèle à Dieu. Je peux m'arranger, je peux me débrouiller. Et Noé, est-ce qu'il était prévenu avec l'heure précise de l'arrivée du déluge? Non. Est-ce que nous connaissons l'heure exacte du retour de Jésus-Christ? Non. Il y en a beaucoup qui se sont trompés en pensant qu'ils avaient déterminé le jour précis de son retour. Nous sommes quand même censés d'observer et de prier que ton règne vienne. Nous sommes quand même censés de rester au courant de ce qui se passe dans le monde, de veiller. Mais notre vigilance est aussi prévue que nous restions en état de vigilance pour éviter que ce monde nous impacte, que ce monde nous séduise ou que ce monde ait un impact mauvais sur nous. Donc c'est ça, c'est la vigilance aussi. Parce que si les tendances du monde sont de pire en pire, si ça arrive dans le monde, des fois, ça peut avoir un impact sur l'Église de Dieu aussi. Mais Dieu interviendra dans ce monde autour de nous, dans une façon apparente à tout le monde, comme le déluge. Personne n'aurait pu dire « je n'ai pas vu le déluge arriver ». Dans la même façon, tout le monde va voir le retour du roi des rois. Il viendra avec son royaume après le son des trompettes. Et donc, beaucoup seront ébahis le jour de son retour et bien avant, en voyant les miracles et les prodiges aux cieux. Donc, en particulier, ceux qui connaissent, on peut dire que le monde aujourd'hui répète ou connaît les scénarios dans les films apocalyptiques. De temps en temps, on voit au cinéma les films qui présentent ces scénarios apocalyptiques. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir tous les miracles avant le retour de Jésus-Christ? Je ne sais pas si on va se tromper en pensant que ce sont des extraterrestres qui arrivent ici sur la Terre, mais je crois que quand même ça fait partie des mensonges de ce monde. Qui en fait va tordre l'esprit de l'homme pour qu'il ne comprenne pas facilement ce qui se passe. C'est sûr que le monde entier va trembler au retour de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas obligés de passer par ce peur-là, par cette étape effrayante. Nous sommes quand même prévenus, nous sommes avertis de ce qui va se passer. Nous serons là plutôt pour aider notre prochain après le retour de Jésus-Christ si nous construisons quelque chose de solide par rapport à l'instruction de Dieu dans la Bible. C'est comme quand on voit une crue monter et quand on voit l'eau qui recule après la crue, il y a des bâtiments endommagés et c'est en ce moment-là que nous pouvant quand même commencer à reconstruire et à réparer les choses endommagées. Il y aura après les miracles et les signes avant le retour de Jésus-Christ, il y aura quand même beaucoup de dégâts sur la terre. J'imagine que Noé et sa famille éventuellement ont vu aussi des dégâts après le déluge. Mais est-ce que c'est nos maisons qui sont à risque aujourd'hui? Est-ce que par rapport à ça, nous sommes obligés de construire une maison solide dans les montagnes pour résister aux grandes crues? Non. Est-ce que c'est nos biens qui sont à risque par rapport au monde entier qui nous entoure? Considérant ce que Jésus-Christ lui-même a dit en Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Il souligne tout de suite ici ce qui est à risque vis-à-vis de cette inondation qui est en train de se passer dans le monde entier. Matthieu 24 et le verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Puis, au verset 11, un petit peu plus loin, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc c'est notre rôle dans l'Église de prêcher cet évangile, l'évangile du retour de Jésus-Christ et le royaume de Dieu sur la terre, dans le monde entier. Ce n'est pas simplement quelque chose associé avec la nation d'Israël, certainement, mais c'est dans le monde entier. C'était prévu que ça soit prêché dans le monde entier. Mais ces eaux que nous avons déjà examinées ici, comme les guerres, les bruits de guerre, les famines, les divers, les choses, les tremblements de terre, et bien sûr la séduction par les faux prophètes, ces eaux, entre guillemets, montent petit à petit, des fois aussi, sans faire beaucoup de bruit, sans qu'on s'aperçoit. Il y a quand même des eaux qui montent petit à petit avant le grand déluge. Donc ces choses risquent de nous attaquer si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous a appelé de faire, de bâtir ce que Dieu nous a demandé de bâtir. Est-ce que notre arche est prête? Physiquement, nous n'allons pas faire une arche. Mais spirituellement, est-ce que nous construisons ce que Dieu nous a demandé de construire? Est-ce que nous construisons quelque chose qui endurera? Nous sommes obligés de terminer l'œuvre. Nous sommes obligés de montrer l'exemple, d'être une lumière. Nous sommes obligés d'établir le caractère divin. Nous sommes obligés de garder la foi. Nous pouvons demander à Dieu son aide dans toutes ces choses. Considérons Hébreux chapitre 11. Parce qu'ici, nous voyons là où la ligne du récit, si vous voulez, de Noé et notre vie s'intercroise. Nous avons maintenant une intersection entre ce que nous avons discuté de la vie de Noé et ce que nous observons ici, aujourd'hui, dans le temps de la fin. Hébreux chapitre 11 et le verset 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc encore une fois, Dieu a donné à Noé des instructions comment faire l'arche. Mais c'est par la foi que Noé s'est décidé de commencer à faire ces choses. Parce que c'était pas quand la pluie a commencé à tomber que Noé avait commencé l'arche. C'était après avoir reçu le commandement de Dieu. Encore une fois, la Bible est un livre sans égal. La Bible est un livre d'instruction pour nous. Et la Bible fournit un aperçu du futur et propose de nous aider à nous y préparer. Donc, nous sommes en train de préparer l'avenir. Dieu nous donne quand même des instructions et aussi des outils pour construire aujourd'hui. Et donc, dans le temps qui reste dans ce serment, je voudrais vous rappeler de l'un de ces outils de construction pour construire le caractère de Dieu avec son aide. Et cet outil est parmi ceux qui sont tout de suite et actuellement disponibles. Donc, si par exemple je regarde une scie dans un magasin, c'est une chose. C'est un outil de construction. Si j'observe quelqu'un scier, c'est quand même encore une autre chose. Mais si je voudrais apprendre à scier, je dois développer des compétences dans ce domaine. Si je dois le faire pour bâtir quelque chose, pour la construction, je ne peux pas simplement commencer à scier et avoir le bon résultat. Ça demande de la pratique. Ça demande de l'expérience. Je saurai peut-être comment choisir, après avoir étudié, comment choisir la bonne scie pour mon objectif et pour le matériau en question. Je saurai si je dois aiguiser la lame. Je saurai comment le faire. Je vais scier avec de plus en plus de précision à chaque fois pour faire une bonne coupe. Donc, je sais que vous aussi connaissez déjà cet outil de construction. Donc, j'espère que vous ne pensez pas que c'est trop simple parce que nous pouvons toujours nous interroger sur notre efficacité de s'en servir de nos outils de construction dans le cadre de notre développement spirituel. Donc, dans le temps qui reste, considérons sept clés pour améliorer notre étude biblique. L'étude biblique qui est l'un des outils principaux pour construire ce que Dieu nous a demandé de construire aujourd'hui. Quand nous engageons dans l'étude biblique, nous pouvons le faire tout comme ce que je vous ai dit par rapport aussi au magasin, à la scie qui est au magasin. Nous pouvons juste le prendre et commencer à lire. Même on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et on peut juste commencer à lire à partir de cette page-là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de faire de temps en temps, juste de voir qu'est-ce qui va me présenter aujourd'hui quand j'ouvre la Bible, jusqu'à quelle page ça va tomber. Et puis, hop, avec le doigt, je peux commencer à lire. Je sais que je vais trouver quelque chose qui est applicable à ma vie si je lis et si j'étudie la Bible. Par contre, il y a une autre façon de faire. On peut commencer en Genèse et on peut juste lire jusqu'à la fin de la Bible et puis on peut terminer avec le livre d'Apocalypse et on peut recommencer à zéro avec Genèse encore une fois. Mais ça aussi, ce n'est pas la seule façon, bien sûr, d'étudier la Bible. Donc, quelles sont des clés, quelles sont quelques méthodes pour peut-être améliorer, peut-être rendre plus facile ou plus intéressant notre étude biblique. D'abord, il faut quand même mentionner avec cette première clé, la clé numéro 1, c'est commencer avec la prière. Commencer avec la prière. Au lieu de simplement s'arrêter, si on est en train de travailler, si on est en train de faire quelque chose, et on va juste tout de suite rapidement prendre la Bible et commencer à lire, il vaut mieux peut-être prendre une pause entre ce que nous venons de faire et notre étude biblique. Je sais que c'est ça qui est vraiment bien le jour du sabbat, c'est que le jour du sabbat, souvent nous avons plus de temps libre, donc ce n'est pas très difficile le jour du sabbat à avoir du temps pour vraiment étudier la Bible, et des fois c'est même plus tranquille parce que on est chez soi, on n'est pas au travail, on n'est pas dérangé, on peut choisir de rester chez soi, on peut choisir de dédier vraiment beaucoup de temps à l'étude biblique. Mais si nous allons étudier la Bible chaque jour de la semaine, si on va faire ça tous les jours, on risque d'avoir quand même une activité droite à gauche de temps en temps qui peut nous distraire, ou on risque de s'arrêter à faire une chose et de passer directement à l'étude biblique. Mais ce que je voulais souligner avec cette clé, c'est que nous allons commencer l'étude biblique avec une prière que Dieu nous révèle sa volonté chaque fois que nous lisons et que nous étudions la Bible. Nous demandons de l'inspiration qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre les oreilles pour entendre sa voix, pour entendre son instruction. Et en faisant cela, ce n'est pas simplement une pause physique, mais c'est reconnaître le fait que nous sommes en train d'étudier les Saintes Écritures et que nous avons quand même une tâche devant nous qui n'est pas simplement une tâche physique de passer un certain nombre de minutes à étudier la Bible ou de lire tant de chapitres, mais la tâche, c'est une tâche spirituelle. Et c'est pour ça que la prière, avant de commencer l'étude biblique, c'est quand même quelque chose qui peut nous aider à reconnaître que c'est une tâche spirituelle dans laquelle nous nous engageons. Et nous allons demander, non pas seulement que nous comprenions ces choses qui sont passées, que nous absorbons un petit peu les faits, mais que Dieu nous aide à relier ce que nous lisons avec ces choses qui sont en train de se passer dans nos vies. Et je l'ai dit peut-être déjà 1000 fois, mais pour moi, c'est la Bible qui est toujours la même chose, mais dans chaque période, dans chaque phase de la vie, il y a quand même la possibilité de revenir au même passage, et le fait que nous ayons changé, le fait que nous sommes un peu différents qu'avant, ou nous avons quelque chose qui est pesant, qui nous dérange, que nous avons une épreuve, des choses comme ça, ça fait que quand nous lisons ce même passage une deuxième fois, nous allons trouver d'autres significations, d'autres sens, et un sens peut-être plus profond que d'autres moments dans la vie. Et c'est ça qui est incroyable par rapport aux Écritures, c'est que à chaque fois, nous pouvons profiter des leçons. Nous n'allons jamais épuiser la Bible de ces leçons, de toute cette nourriture spirituelle qui s'y trouve. Donc la deuxième clé que je voulais souligner aujourd'hui, c'est de lire la Bible avec un œil pour le contexte ou d'un œil pour le cadre général. Quand nous allons prendre, par exemple, un verset, souvent on cite des versets, peut-être dans un article, ou peut-être on va citer un verset quand on est en discussion avec quelqu'un, on va entendre ces versets, et des fois, quelqu'un va dire, la Bible dit ça, et puis point, et il va juste citer le verset. Ce qu'il faut, c'est, par rapport à cette clé pour améliorer l'étude biblique, c'est que l'œil pour le contexte nous donne la possibilité non seulement de considérer les mots dans le verset, mais le contexte nous aide à savoir pourquoi ces mots ont été écrits comme ça, qui les a écrits, à qui ils les ont écrits, et puis des choses comme ça, le cadre général. Donc, c'est une clé pour obtenir une étude biblique efficace, c'est lire le contexte dans lequel le verset ou le chapitre que nous étudions est donné. Même le livre, on voit que dans les chroniques et dans les rois, il y a quand même une différence de l'approche. L'un est plus descriptif dans le sens où il y a plus d'histoire et l'autre a plutôt une liste de faits. Et donc, nous pouvons comparer également pour avoir un contexte d'un événement qui est passé dans l'histoire d'Israël ou même dans les évangiles. Nous pouvons comparer les différents évangiles pour voir avec le contexte de ce qui se passe dans cette partie des évangiles. Donc, ce n'est pas simplement le chapitre ou les quelques versets qui l'entourent, mais si jamais il y a un événement qui est répété ailleurs, nous allons pouvoir comparer les versets, comparer et faire une petite synthèse de l'ensemble de ce que nous considérons dans un passage. Donc c'est très utile de considérer si vous avez une Bible qui a des références dedans, c'est très utile de considérer ces références qui sont déjà là dans la Bible. Il peut souvent, ces références nous donnent cette possibilité d'aller ailleurs pour considérer le contexte. Donc voilà une façon de considérer le contexte. C'est d'aller plus loin que juste quelques versets, mais c'est pour comprendre le cadre général. Et ça nous amène à notre troisième clé pour aujourd'hui, c'est de faire de temps en temps des études par sujet. On peut, comme je vous ai déjà dit, on peut juste lire par chapitre ou par livre, et c'est très bien de comprendre tout ce que le prophète Michée a dit, par exemple, ou tout ce que l'évangile de Luc explique. C'est intéressant de faire une étude de chaque livre. Il y a 66 livres dans la Bible, dans ce sens-là. Mais on n'est pas obligé de considérer juste les choses de A à Z. Nous pouvons choisir un sujet comme le sabbat, un sujet comme les jours saints, un sujet comme ce que la Bible dit par rapport aux Écritures. Donc, dans le Nouveau Testament, si vous cherchez le mot « Écriture », vous pouvez quand même voir que dans les Écritures, c'est les Écritures qu'ils ont étudiées pendant l'époque de l'Église du Nouveau Testament, et on peut dire, on peut voir, on peut étudier ce que l'Église du Nouveau Testament a dit par rapport à la Bible, aux Écritures, à l'époque. On peut faire une étude par un mot comme l'Église aussi. On peut étudier l'Église. On peut faire une biographie, une étude d'un personnage dans la Bible aussi. On peut quand même choisir n'importe quel sujet. Ce n'est pas limité. On a quand même la possibilité d'accumuler avec les années notre petit dossier, si vous voulez, notre petit dossier sur un sujet ou quelques sujets, ou même une section de la Bible. Et on peut quand même élaborer aussi ou élargir nos références petit à petit. Donc on peut, même si on a un sujet particulier, on peut trouver d'autres exemples, d'autres articles même sur notre site Internet, par exemple, Vie, Espoir et Vérité, et on peut télécharger ou lire ces articles, on peut les imprimer, les garder avec un dossier sur un sujet particulier. Comme ça, si jamais on a une question, on a quelque chose, on peut aller se référer à nos dossiers sur ces sujets. Donc, c'est quand même une autre façon d'aller un peu plus loin dans nos études bibliques. C'est de commencer avec les années, à accumuler d'autres exemples pour confirmer, pour chaque sujet que nous avons choisi d'étudier. Donc, de temps en temps, il est mieux de faire des études par sujet. Notre quatrième clé pour aujourd'hui, pour l'étude biblique, c'est de se servir de versets, de passages bien clairs pour faciliter la compréhension de passages qui ne soient pas aussi clairs. Des fois, on a un passage clair, et c'est vraiment clair, mais à côté, il y a un passage qui est moins clair. Donc, est-ce qu'on va se servir du passage moins clair pour contredire ce qui est dans le passage très clair? Ou est-ce que si quelque chose est répété 10 fois dans la Bible, et puis une seule fois, quelque chose n'est pas très clair à propos de ce sujet, est-ce qu'on va contredire les autres exemples de comment la Bible parle d'un certain sujet? Non, on va essayer de le comparer pour faciliter la compréhension des passages. La Bible nous aide à interpréter la Bible dans un sens. La Bible nous aide à interpréter la Bible. Comme je vous ai dit, il y a des références. Il y a même, bien sûr, Jésus-Christ qui a expliqué les prophéties de la Bible en Jérémie, en Ésaïe. Et donc, il a quand même rendu peu clair ces prophéties. Et puis d'autres, comme les apôtres, ont aussi, comme l'apôtre Paul, a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur l'interprétation du Messie et du sacrifice de Jésus-Christ et le but de son venu sur la terre. Donc, la Bible nous aide à interpréter la Bible. Et donc, nous avons la possibilité dans la Bible de comparer des passages clairs à des passages qui sont peut-être moins clairs. Je vous donne un autre exemple. Si on comprend ce qui est écrit dans le livre de Daniel par rapport aux empires ou à la fin du monde et le fait que c'est Christ et le royaume de Dieu qui va arriver ici sur terre, c'est bien clair là-bas, mais si on compare ces passages à ce qui est écrit en Apocalypse, nous allons quand même avoir une meilleure vision de l'ensemble. Et même à l'Institut de Fondement, Monsieur Micker, cette année, il a donné, il y a quelques mois, un cours qui était intitulé Daniel et Apocalypse, pour qu'on puisse s'associer les prophéties des deux livres. Il y a aussi, ce n'est pas le seul exemple, il y a bien sûr Ézéchiel et Apocalypse aussi, d'autres exemples de passages qui nous aident à comprendre les paroles, soit des prophètes, soit de Jésus, comme si on étudie Matthieu 24, par exemple, et la prophétie du mont des Oliviers, et puis on se reporte en Apocalypse pour voir la confirmation de ces choses qui vont se passer. Donc, pour la cinquième clé, nous pouvons comparer quelques traductions de la Bible. Nous pouvons considérer que ce n'est pas seulement une traduction qui existe de la Bible. Il y a des centaines de traductions qui existent. Certaines sont des traductions mot par mot ou mot à mot, et d'autres sont des traductions de sens, des paraphrases. Et il faut quand même connaître les traductions et leurs points forts. Il y en a certains qui ont peut-être des points faibles, et même certaines traductions, ils sont très forts ici dans un endroit, mais il risque d'avoir quelques endroits où les traducteurs n'étaient pas très fidèles au texte. Donc si on commence à vouloir améliorer notre étude biblique, si on commence à construire, si vous voulez, on va peut-être acheter ou télécharger, si c'est possible, sur Internet, vous pouvez consulter certains sites où vous pouvez quand même changer la traduction sans devoir acheter tant de livres. Il y a certains sites qui nous permettent de comparer les traductions de la Bible pour voir s'il y a des petites différences dans certains passages. Donc, il est utile de connaître ces points forts ou ces points plus faibles de chacune de ces traductions que nous allons citer pour notre étude biblique. Mais des fois, l'une des traductions sera peut-être plus claire dans un sens ou qui va nous aider à mieux comprendre le sens du passage. Notre site internet Vie, Espoir et Vérité se sert de la version Louis Seconde. Ça s'appelle la nouvelle édition de Genève en 79. Donc, c'est ce que nous utilisons en principe sur notre site internet. Et si ce n'est pas cette version-là, si c'est par exemple la version Osterwald, nous allons citer que ce n'est pas cette version, mais c'est l'autre. Donc, vous aussi, vous pouvez comparer les versions de la Bible pour améliorer votre étude biblique. La clé suivante, la clé numéro 6, c'est faire ce que nous apprenons dans la Bible. Oh, ça change, n'est-ce pas? On peut acheter une version, on peut investir dans des ressources, dans des commentaires, on peut élaborer des recherches, on doit quand même mettre en pratique ce que nous avons appris. Quand j'étais jeune, j'avais quand même étudié, et j'ai comparé ce que j'ai lu dans les articles de l'Église, dans les brochures de l'Église, avec ce que je lisais dans la Bible, et j'ai trouvé aucune faute dans ce que l'Église prêchait, parce que tout était référencié, tout était cité. Pour établir une doctrine, on citait la Bible. On ne disait pas n'importe quoi sans citer la Bible. Et donc, ça m'a permis de me dire, tiens, j'ai compris quelque chose maintenant. J'ai compris que la Bible est c'est un livre d'instruction pour ma vie. Je me suis dit, si c'est un livre d'instruction pour moi, si je comprends ces choses maintenant, je dois les mettre en pratique. Et s'il y a une clé dans la Bible qui est peut-être la plus difficile à faire entre les clés que je vous ai données aujourd'hui, c'est celle-là. C'est quand le changement est impliqué, quand nous sommes appelés à changer, à mettre en pratique ce que Dieu nous révèle dans la Bible. Ce qu'il faut, c'est obéir les commandements et l'instruction de la Bible pour vraiment que ça soit un impact sur la vie. C'est bien de savoir, c'est bien de connaître des choses, c'est bien de citer des versets, mais c'est sûr que la mise en pratique, c'est la chose qu'il faut faire le plus. Dieu a envie de nous développer par l'obéissance à sa parole. Quand nous commençons à mettre en pratique ce que Dieu nous révèle dans la Bible, c'est en ce moment-là que nous allons vraiment récolter l'avantage, les bénédictions de ce qui est dedans. Nous allons quand même commencer à marcher avec Dieu comme nous ne l'avons pas fait auparavant. La septième clé, et la dernière clé pour aujourd'hui, c'est de chercher conseil. Chercher conseil, on peut améliorer notre étude biblique en cherchant conseil. C'est vrai que chercher conseil, c'est pas non plus évident de temps en temps. À qui je vais poser cette question? À qui je vais faire confiance? Parce que dans un sens, pour poser une question, il faut quand même aussi admettre que je ne connais pas 100% ce sujet. Des fois, on a peur d'avoir tort. On a peur peut-être de ne pas connaître quelque chose qu'on devrait connaître. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. C'est pour apprendre, pour avancer. Nous sommes là les uns pour les autres. Et n'oublions pas de poser des questions quand nous nous engageons dans l'étude biblique. Il est toujours possible de m'envoyer un courriel ou même vous pouvez poser une question de l'un de nos frères et sœurs aussi pour voir ce qu'ils pensent de quelque chose. Mais n'hésitez pas, n'hésitons pas à parler de notre étude biblique entre nous. Ça nous fait du bien. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui fait que la Bible est aussi importante? Considérant 2 Timothée chapitre 3, j'ai deux versets pour vous. D'abord, 2 Timothée chapitre 3. Qu'est-ce qui fait que cette Bible est aussi importante, aussi singulière? C'est quand même une parole puissante. C'est une parole, c'est un livre qui est capable de nous changer. Considérons 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli est propre à toute bonne œuvre. L'œuvre, quand je lis ce mot maintenant, dans le contexte de ce sermon, l'œuvre que nous faisons, l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, c'est une œuvre de construire quelque chose qui va durer, quelque chose qui résistera à la tentation, au déluge, aux eaux qui montent dans ce monde. Donc, Hébreux chapitre 4 et le verset 12, encore un exemple, cette parole puissante, la Bible, Hébreux chapitre 12 et le verset, pardon, Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Hébreux 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une parole puissante. C'est une parole capable de nous changer la vie si nous l'étudions. Donc, si on se demande où se passe-t-il ce projet de construction pour le chrétien, ce verset nous aide à comprendre. C'est partagé, ça se passe dans le cœur, ça se passe jusqu'au cœur. C'est notre cœur qui est obligé de changer et notre cœur reçoit aussi, nous recevons l'Esprit de Dieu et nous avons quand même cette bénédiction d'être quand même amenés est guidé par Dieu à travers de son esprit. Mais aujourd'hui, travaillons-nous à la construction que Dieu nous a appelé de faire? Est-ce que notre étude biblique représente une occasion de travailler sur cette construction? Est-ce que nous profitons réellement de notre temps déjà dédié à l'étude biblique? Est-ce que nous pouvons améliorer nos pratiques pour mieux profiter du temps que nous dédions déjà à l'étude biblique? Comme Noé, nous avons la tâche de faire quelque chose qui va résister, qui va durer. Jacques chapitre 5 nous donne la réponse de où se passe-t-il ce projet. C'est encore une réponse, un endroit où on a la réponse. Et si nous sommes en train de bâtir quelque chose, si nous sommes en train de faire quelque chose de solide, avec l'aide de Dieu, bien sûr, avec les instructions de Dieu, par sa parole, Jacques nous indique ici, dans Jacques chapitre 5 et le verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » Car l'avènement du Seigneur est proche. Et cette phrase, cette expression, cette vérité n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. l'avènement du Seigneur est proche. Donc, nous sommes en train d'affermir nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc voilà, un outil. Je vous ai mentionné un outil pour affermir le cœur, pour construire le caractère que Dieu est en train d'effectuer en nous, afin que nous fassions de bonnes œuvres dans cette vie physique et aussi dans l'avenir. Est-ce que l'étude biblique représente une priorité, une vraie priorité dans notre vie? La vie quotidienne et ses poursuites risquent de nous bousculer de temps en temps et de nous faire perdre nos priorités. Même cet événement avec le coronavirus est une grande distraction pour beaucoup de personnes. Est-ce que nos rythmes, est-ce que notre rythme de vie qui comprend l'étude biblique, est-ce que ça a été changé? Est-ce que ça a été impacté? Est-ce que nous sommes peut-être plus stressés, un peu anxieux? Est-ce que nous avons du mal à nous asseoir et de nous mettre face à face avec la Bible, avec la vérité de Dieu? Je voudrais vous encourager aujourd'hui que ce temps passé devant les paroles de Dieu, en train de les incorporer dans nos vies, on ne peut pas faire ça de trop. C'est Dieu qui nous offre son Esprit Saint afin d'accomplir son œuvre en nous. Par son Esprit et par l'exemple de Jésus-Christ, Dieu nous donne la force de bâtir un cœur ferme dans la foi. Nos efforts à s'en servir de l'étude biblique sont l'évidence de notre foi, ils sont partie de l'évidence de notre foi. Et le résultat, c'est que nous allons devenir ce que Dieu attend de nous, des enfants fidèles.